Voix singulière de la collection Terre humaine, une émission réalisée à partir des archives INA. Aujourd'hui, Pierre Clastre. En 1972, Pierre Clastre a 38 ans lorsqu'il publie dans la collection Terre humaine sa chronique des Indiens Guayaki, fruit d'un an de terrain dans la forêt du Paraguay et de plusieurs années en Amazonie. Chronique passionnante, dérangeante, ponctuée d'inceste, de meurtre, d'anthropophagie. Pierre Clastre y ébauche sa théorie des sociétés acéphales, où selon lui, l'anarchie est un système politique achevé et cohérent, idée qu'il développera 2 ans plus tard, en 1974, dans un autre ouvrage qui a laissé une trace incandescente dans l'histoire des sciences sociales, La société contre l'État. Pierre Clastre meurt accidentellement en 1977 à l'âge de 43 ans. Voici sa voix retrouvée dans les archives de l'INA et tout d'abord en juin 1976 dans les chemins de la connaissance sur France Culture en compagnie de Paul Chavas.
J'étais étudiant en philo, ça fait déjà un petit moment, mais la perspective d'être prof de philo dans un lycée et de répéter pendant 30, 40 ans ou plus la même chose à peu près ne me disait absolument rien. À la même époque à peu près, il se trouve que par hasard j'ai été simultanément branché sur l'ethnologie par les premiers livres de Lévi-Strauss. Ensuite que j'ai connu pas mal de représentants de la colonie latino-américaine à Paris, qui étaient soit des étudiants, plus fréquemment des peintres, des musiciens, des chanteurs, etc. Et disons d'une manière naturelle, je suis devenu ethnologue à l'Amérique du Sud.
Et le séjour sur le terrain a été une révélation pour vous ?
Ben, pas tellement. Il m'a fallu 4 ou 5 mois pour m'habituer à l'idée que j'étais chez des gens qui étaient, disons, des sauvages, quoi. Tout de suite, ça se voyait pas tellement. Vous voyez, des gens comme tout le monde un petit peu, sauf qu'ils étaient tout nus et qui ne vivaient pas de la même manière, que je ne comprenais pas encore très bien, enfin, du point de vue de la langue, je veux dire. Mais il a fallu vraiment 4 ou 5 mois pour arriver à bien cerner les différences et à me rendre compte à quel point elles étaient irréductibles, absolues. Ça, c'était le premier séjour, c'était chez les Guayaki. Alors finalement, mon champ de terrain au Paraguay, c'était des chasseurs sauvages avec les Guayaki, des prophètes de jungle avec les Guarani, et puis des guerriers qui étaient les Chulupis du Chaco.
Puis d'autres terrains, le Brésil central et le Venezuela.
Oui, mais là c'était, disons, c'était du un peu du tourisme ethnographique. Le terrain, ça veut dire passer du temps.
Quelles sont, à votre avis, les qualités essentielles d'un ethnologue qui travaille sur le terrain ?
Je dirais d'abord de la patience. Il faut une énorme patience. Je pense qu'il faut le maximum de discrétion. C'est-à-dire, il ne faut pas arriver et puis attraper son magnétophone ou son cahier de notes et son stylo et courir chez les gens et leur demander, commencer à leur poser des questions. Je pense qu'il faut d'abord attendre, regarder, essayer de passer inaperçu. C'est la patience, la discrétion. Et puis, être attentif, naturellement. Au début, on ne comprend rien, naturellement, de ce qui se passe. Quand on ne connaît pas la langue. Et alors, on ne peut pas demander, évidemment, qu'est-ce qu'il dit, ou qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'elle fait. Alors, il faut noter sur le carnet, discrètement, et puis en pensant que 3 ou 4 mois après, on demandera qu'est-ce que c'était, etc.
Et pourtant, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a en France, du moins, deux grands courants qui marquent les ethnologues.
Je suppose que vous voulez parler du structuralisme et du marxisme.
C'est ça.
Oui. Pour ce qui est du structuralisme, c'est une machine d'analyse qui fonctionne très bien, l'œuvre de Lévi-Strauss est là pour le prouver, dans certains champs. Pour le marxisme, là, c'est autre chose, parce qu'enfin, à mon avis, Là, il y a une conception globale et totale de la société et de l'histoire telle que les sociétés primitives elles-mêmes relèvent de cette conception de l'histoire. C'est-à-dire, je m'explique, je veux dire par là que si le marxisme, c'est la science de la société, et, disons, les marxistes présentent le marxisme de cette manière, c'est la science de la société. J'entends par marxiste, pas tellement Marx, sinon tout ce qui est venu après. Si le marxisme, c'est la science de la société, alors les sociétés primitives relèvent d'une analyse marxiste, forcément. Sinon, on ne peut pas dire que le marxisme, c'est la science de la société, puisqu'il y aurait au moins un champ de société qui échappe à cette analyse. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que, peu à peu, au fur et à mesure que se mènent des études dites d'anthropologie économique, ce qu'on voit, c'est que, disons, la clé de voûte de la conception de l'histoire du marxisme, à savoir le développement nécessaire des forces productives, eh bien ça c'est quelque chose qui ne se donne pas dans les sociétés primitives. Les sociétés primitives, c'est des sociétés dans lesquelles ce qu'on appelle les forces productives ne tendent pas du tout à se développer. Bon. Alors par conséquent, là il y a quelque chose qui ne colle pas du tout avec la conception marxiste de l'histoire.
Clastre, donc en juin 1976, répondait aux questions de Paul Chavas. Nous remontons le temps. Nous nous trouvons maintenant en janvier 1967. Il est en compagnie de Jean Charbonnier pour les matinées de France Culture, Sciences et Techniques.
Pierre Clastre, vous êtes ethnologue, vous venez de regagner Paris. D'où venez-vous ?
Je reviens du Paraguay où j'ai fait mon travail de terrain chez des diverses tribus de ce pays. Et j'y étais parti avec l'intention de recueillir du matériel ethnographique qui me permettrait d'aborder une question qui m'intéresse particulièrement et qui est celle de l'institution politique dans les sociétés primitives sud-américaines, c'est-à-dire dans les sociétés indiennes. Ce problème est extrêmement intéressant et il est en même temps neuf au sens où il a été peu abordé par les ethnologues jusqu'à il y a peu de temps. Et les ethnographes, disons les américanistes, s'intéressaient assez peu à ce problème. On ne pourrait pas en dire autant naturellement des africanistes, qui eux au contraire, depuis une vingtaine d'années, se sont beaucoup intéressés aux structures politiques des ethnies qu'ils étudient là-bas, et à la nature des divers types de pouvoirs qui existent en Afrique. Les premiers Européens qui sont arrivés au Brésil, qui se sont trouvés en contact essentiellement avec les Tupinamba, qui étaient les tribus Tupis du littoral brésilien, ont une réaction d'extrême étonnement en observant que les chefs, dans ces tribus, enfin comme on dit maintenant les caciques, n'avaient pratiquement pas d'autorité. Et ça les a extrêmement surpris parce que les Européens étaient habitués au modèle occidental du pouvoir où le représentant de l'institution politique, enfin de l'autorité, a effectivement du pouvoir, exerce effectivement une autorité qui même peut être coercitive. Or, ce qu'ils voyaient chez les sauvages, qu'ils découvraient alors, c'était qu'il y avait des chefs, incontestablement, qui pouvaient même être parfaitement bien respectés des gens de la tribu, mais qui n'avaient absolument aucune autorité, qui par exemple ne pouvaient absolument pas donner un ordre, parce qu'ils auraient été désobéis, dont la fonction, si vous voulez, était complètement dépourvue de capacité coercitive. Alors, naturellement, la façon de résoudre cette anomalie pour les premiers occidentaux, je veux dire, c'était de penser que c'était normal, car on avait affaire à des sauvages, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas civilisés, car s'ils avaient été civilisés, ils auraient eu un vrai pouvoir, c'est-à-dire des chefs analogues à ceux que l'on trouvait en Europe, où il y avait évidemment à cette époque des monarchies absolues, en France, au Portugal, en Espagne, etc. Cette surprise des premiers chroniqueurs était renforcée de ce que l'on avait trouvé de l'autre côté du continent, c'est-à-dire dans les Andes, un empire extrêmement centralisé et un empire absolu, qui était l'empire des Incas. Alors c'est-à-dire que d'un côté il y avait les Andes avec un empire extrêmement centralisé et qui offrait des traits familiers aux Européens,
car l'Inca c'était un peu l'empereur d'Espagne, etc., etc. Et de l'autre côté, dans ce qu'on appelle, enfin disons, les tribus de la forêt tropicale, il y avait le règne de la sauvagerie, des chefs qui n'étaient pas de vrais chefs, et un pouvoir, peut-on dire, qui était impuissant. Alors, cette manière de voir les choses s'est prolongée jusque dans l'ethnographie, on peut dire presque contemporaine, au sens où les ethnologues ne se sont pas tellement intéressés à ce problème, n'est-ce pas, au problème de la chefferie, au problème de l'autorité politique. Alors, un ethnographe partait sur le terrain et observait que le chef n'avait aucune autorité. Alors on disait, très pertinent de la chefferie, elle est peu différenciée, pratiquement pas d'autorité, etc., etc. Alors il y avait derrière cette manière de voir les choses, derrière cette évidence naturelle qui impliquait que autorité politique devait être nécessairement en conjonction avec, disons, la coercition, impliquait donc une sorte de préjugé sur l'essence du pouvoir, à savoir que le pouvoir doit être partout tel qu'il est en Occident, le pouvoir c'est la coercition, et ensuite même une philosophie de l'histoire qui est contestable, à savoir que il y a divers stades enfin qui se développent dans le temps et par lesquels on passe de la sauvagerie, c'est-à-dire du pouvoir, de ce faux pouvoir, de cette caricature de pouvoir, au véritable pouvoir d'une société policée où le pouvoir, disons, récupère son essence et devient coercitif. Il faut voir comment fonctionne, disons, au niveau de la vie quotidienne, au niveau des relations quotidiennes entre le groupe et son chef, c'est-à-dire entre la société et son pouvoir, comment fonctionnent les relations entre la chefferie et la tribu, disons. Alors, on observe que premièrement, enfin, la fonction essentielle d'un chef, c'est d'être un pacificateur, c'est-à-dire de veiller à ce que la bonne entente règne entre tout le monde, d'essayer de résoudre pacifiquement, naturellement, et pas par la violence, les conflits qui peuvent se produire entre deux familles ou deux clans, enfin, selon la structure sociale de la tribu. Alors donc, le chef est un pacificateur. D'autre part, il y a deux conditions du point de vue des Indiens pour être chef, c'est qu'il faut, être généreux en biens économiques, et éventuellement enfin, en service, et il faut être bon orateur. La quatrième caractéristique de la chefferie, c'est que les chefs sont presque toujours polygynes, je veux dire qu'ils ont plus d'une épouse. Naturellement, ceci peut varier selon la tribu. Un chef peut avoir seulement deux épouses, mais il y avait certains grands caciques qui en avaient 30, 35 et même plus. Alors donc, pour résumer, le chef est un pacificateur, il doit être généreux de ses biens, il doit être bon orateur et il est polygyne. Et très souvent d'ailleurs, dans beaucoup de tribus, le seul homme qui a plus d'une femme, c'est le chef. C'est un privilège. Maintenant, il me semble qu'il faut provisoirement écarter la fonction concrète, qui est la pratique politique du chef, à savoir sa fonction de pacificateur, et retenir, pour suivre l'analyse, les trois autres déterminations, à savoir la générosité, le talent oratoire et le privilège polygynique. On remarque, lorsqu'on considère ces trois traits, on remarque qu'ils nous renvoient au langage, c'est-à-dire aux mots ou aux messages, aux femmes et aux biens. C'est-à-dire les trois principaux éléments dont la circulation définit précisément la société, l'être de la société. C'est-à-dire que si la société c'est le lieu de l'échange, cet échange s'opère essentiellement à trois niveaux, au niveau des femmes, au niveau du langage, change des mots.
Et au niveau des biens. Et alors là, le chef assure la circulation au niveau des biens, il assure la circulation au niveau des mots.
Non, si l'institution politique ou la sphère du pouvoir et la société se déterminent exactement à partir des mêmes éléments, c'est-à-dire les femmes, les biens et les messages, disons, c'est qu'on voit, qu'au niveau de l'institution politique, au niveau du chef, ces éléments sont affectés d'un signe contraire de celui qui les affecte au niveau de l'être social, c'est-à-dire que l'échange disparaît. C'est-à-dire ces trois éléments, ou même ces trois signes, disons, sont des choses qui circulent, des signes qui circulent, et par là même constituent la société comme société, tandis qu'au niveau de l'institution politique, il ne circule plus, ou plutôt il circule à sens unique. C'est-à-dire que par exemple,
c'est ce que je voulais dire. Je voulais justement vous demander si le discours du chef, si le don du chef n'était pas une façon de rétablir une circulation qui aurait été plus ou moins interrompue. Je parle en profane. Alors qu'au contraire, en ce qui concerne les femmes, il semblait plutôt que le chef bloquait la circulation.
Oui, mais justement, mais aux trois niveaux, au niveau, que ce soit au niveau de la polygynie, au niveau de la générosité à laquelle il est obligé, et au niveau du talent oratoire, il n'y a pas de réciprocité. Je veux dire que, au niveau des femmes, le chef est polygyne, et souvent il les aime beaucoup, au point de pouvoir provoquer des déséquilibres dans les petits groupes, n'est-ce pas? Il reçoit des groupes des femmes du groupe, mais lui, évidemment, est incapable d'assurer la réciprocité, c'est-à-dire de remettre en circulation, si je puis dire, dans le groupe, une quantité égale de femmes. D'autre part, lorsque le chef parle, et c'est une chose très courante chez les Indiens, que les chefs, on le reconnaît surtout, un homme qui parle, très souvent, est un chef. Alors, il doit faire un discours le matin ou le soir, ce qui est un discours d'ailleurs presque vide, où il dit simplement qu'il faut vivre en bonne entente, qu'il faut vivre selon la tradition et les coutumes qu'ont enseigné les ancêtres, etc., etc. Mais en échange, le groupe, disons, ne lui offre pas de discours. C'est-à-dire, c'est lui qui fait des cadeaux de ses mots au groupe, et il n'en reçoit pas un échange. Et au niveau des biens, eh bien, le chef est un homme qui doit donner, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de refuser une demande, et on peut dire même qu'il est très souvent, enfin, il est soumis à un pillage permanent de la part des gens de son groupe, qui ne sont absolument pas obligés de lui offrir quoi que ce soit. Alors, ce qui me paraît intéressant sur ce point, c'est que la sphère du pouvoir, ou la chefferie dans ces sociétés, apparaît comme la rupture de l'échange. Alors que l'échange, c'est l'essence même de la société. C'est-à-dire que il apparaîtrait que le pouvoir, la sphère du pouvoir, c'est la négation de l'échange, et en un sens, du fait que l'échange, c'est l'essence du social, le pouvoir apparaîtrait comme la négation de la société. Alors, dans cette perspective, le problème qui nous occupe en réalité, à savoir pourquoi dans ces sociétés, la chefferie est-elle complètement dépourvue d'autorité, à ce niveau-là, on peut peut-être entrevoir la possibilité d'une solution. C'est que, dans la mesure où le pouvoir se définissant formellement comme la négation de l'échange, c'est-à-dire de la société elle-même en définitive, il est rejeté hors de la société elle-même, c'est-à-dire dans un espace symbolique extérieur à celui de la société. Le chef est loin de la société, n'est-ce pas? Il est extérieur à elle, et d'une certaine manière, il n'a plus de prise sur elle. C'est-à-dire qu'il est incapable d'exercer un pouvoir effectif, c'est-à-dire un pouvoir coercitif.
Qui désigne le chef?
Cela dépend des tribus. Très souvent, la chefferie est héréditaire. En général, quand un chef meurt, c'est son fils aîné qui devient le chef. Sauf si le successeur normal est jugé vraiment incapable de remplir la charge. Alors, il y a les hommes les plus âgés, enfin ce qu'on pourrait appeler le conseil des anciens, peut désigner un autre chef. Mais de préférence, on le choisit toujours dans la famille du chef. Ça sera soit un autre fils, soit un frère, un neveu, enfin. Ou alors, souvent, si la chefferie n'est pas héréditaire, eh bien c'est simplement le groupe des hommes qui désigne le plus capable d'entre eux. Mais c'est un homme qui s'est déjà imposé par son talent de chasseur, de pêcheur, par son adresse à la guerre aussi. Enfin, il y a beaucoup de critères différents qui permettent de sélectionner un homme capable de diriger son groupe.
Bon, il me semble que dans toute société, néanmoins, j'ai peine à penser qu'une société puisse exister où on ne donne pas des ordres et où certains ordres ne soient pas obéis. Dès que l'on met en œuvre la plus petite action collective pour la pêche, pour la chasse, dès que l'on est obligé de travailler à 3, à 4, à 5, il paraît difficile que l'initiative ne revienne pas à un individu. Cet individu donne des ordres. Alors, est-ce que je vais dire que cet individu ne dispose d'aucune autorité, ou comment vais-je présenter la chose pour résoudre ce problème? Et est-ce que je vais être amené à penser que la chefferie est doublée par l'exercice d'une autorité réelle exercée par quelqu'un d'autre que le chef?
Effectivement, à partir du moment où on est plus de deux ou trois et qu'il faut que ces diverses personnes exercent une activité commune, on pense effectivement à une autorité un peu centralisée, enfin une petite planification, c'est-à-dire effectivement une organisation des tâches, etc., et des ordres, effectivement. Et cependant, beaucoup d'activités chez les Indiens sont collectives, mais cependant, ces activités ne résultent pas d'ordre du chef. Par exemple, prenons le discours que fait un chef le soir, à la tombée de la nuit, quand tout le monde est prêt à s'endormir. Il parle, il fait un discours long. Alors, comme je dis tout à l'heure, il évoque la nécessité de vivre selon la loi ancestrale. Et ensuite, il donne les tâches pour le lendemain. Il dit, demain, tel groupe d'hommes pourrait aller à la chasse, aux cochons sauvages, par exemple. Tel autre groupe pourrait aller défricher un coin de forêt pour faire les plantations de manioc ou de maïs. Tel autre groupe pourrait aller à la pêche, etc. Mais en réalité, quand le chef dit demain tel groupe ira faire ceci, c'est que dans la journée, il a discrètement fait une petite enquête d'opinion publique, il est allé voir les hommes, s'entretenant avec eux, leur demandant s'il ne conviendrait pas de faire ceci, etc. Et alors il essaye de trouver une majorité. Si plus d'hommes veulent aller à la pêche qu'à la chasse, certainement il ne va pas donner l'ordre d'aller à la chasse, parce que personne ne l'écouterait. Alors une fois qu'il sait ce que veulent faire la majorité des hommes, alors le soir, dans son discours, ou bien le matin, s'il a fait son enquête la veille au soir, le matin, il dit, eh bien, aujourd'hui, nous allons faire ceci. Et c'est simplement, il exprime l'avis des hommes de sa tribu.
Mais en dehors de la chasse, est-ce qu'il n'y a pas d'activité, ou d'activité collective, où quelqu'un doit exercer l'autorité, enfin prendre l'initiative et par conséquent donner des ordres?
En effet, il y en a une. Et c'est la seule circonstance où se manifeste une autorité du chef. Et cette activité collective, c'est la guerre.
Existe-t-il des cas où une autorité quelconque se manifeste qui ne soit pas exercée par le chef?
Eh bien, on pourrait... Oui, en effet, on pourrait penser au pouvoir religieux, du point de vue du prestige dont étaient investis les hommes les plus respectés dans tel ou tel groupe. Le principal concurrent du chef politique, c'était le chaman. Et à tel point que très souvent même, il y avait une conjonction entre pouvoir religieux et pouvoir politique, c'est-à-dire que la fonction de chaman et la fonction de chef étaient exercées par le même homme. C'est-à-dire que le chef était le chaman. Ça, c'était un exemple extrêmement courant, par exemple, chez les tribus Tupi-Guarani, chez qui les plus grands chefs étaient en même temps les plus grands chamans. Mais il y avait parfois des cas de disjonction, où c'était deux hommes différents qui occupaient ces deux charges. Et la littérature ethnographique montre assez souvent des cas de conflit entre les chamans et les chefs. Et il faut dire que l'autorité des chefs dans les tribus indiennes est extrêmement fragile. C'est-à-dire que les Indiens abandonnent leur chef très facilement. S'il n'est pas assez généreux, par exemple, ou s'il a été maladroit par exemple pour trouver un bon terrain de chasse, ou s'il perd un combat contre une autre tribu, par exemple, on l'abandonne très facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque une tribu abandonne son chef? Eh bien, il l'abandonne d'ailleurs pour aller trouver immédiatement un chef meilleur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le bref intervalle de temps où les gens quittent le chef dont ils ne veulent plus pour aller en trouver un autre? Eh bien, c'est que la société disparaît littéralement. La société n'existe plus, elle se divise. Un certain nombre de familles peut aller vous trouver tel chef d'un groupe voisin, un certain nombre de familles tel autre chef, etc., etc. La société explose, elle disparaît. Ce qui pourrait signifier que pour exister comme telle, la société a besoin de la chefferie, c'est-à-dire de l'institution politique, c'est-à-dire, conformément à l'analyse du début, c'est-à-dire de son propre contraire. J'essaie de montrer que la sphère du pouvoir dans ces sociétés, c'est la négation de l'échange, c'est-à-dire de la société. Donc, il semble que la société a besoin de sa négation, c'est-à-dire le pouvoir. Et ceci peut-être, on pourrait peut-être trouver de ceci une confirmation au niveau linguistique, c'est d'ailleurs, je pense, aux noms par lesquels, dans certaines langues, on désigne le chef. Il y a un nom pour désigner le chef en langue guarani qui signifie l'homme qui rassemble. Et disons, cette expérience linguistique me semble correspondre bien à ce qui se passe effectivement, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de chef, il n'y a pas de société. Alors que le chef, pour le schématiser extrêmement, alors que le chef, c'est la négation de son groupe, finalement.
Pierre Clastre, au micro de Jean Charbonnier, Sciences et Techniques, janvier 1967. Nous retrouvons Pierre Clastre maintenant dans l'atelier de création radiophonique. Qu'est-ce que ces chefs sans pouvoir? Par Andrew Orr, Jean-Jacques Lebel, février 1975.
Le soleil n'était pas encore vertical en ce jour de 1953.
Paraguay.
Presque tous les Achegatus se trouvaient rassemblés, sauf quelques familles pacifistes.
État continental de l'Amérique.
L'arrivée des BRU fut si soudaine que les Coatis n'eurent même pas le temps de réagir.
Mythe des ancêtres, mythe de l'origine de l'obscurité, indien Guayaki.
Guayaki, c'est le nom sous lequel ces Indiens sont connus, mais ce n'est pas le nom qu'ils se donnent à eux-mêmes.
Pierre Clastre.
Guayaki, c'est le nom que leur donnent les Paraguayens et leurs voisins, les Indiens Guarani. Les Guayaki se nomment eux-mêmes les Aché. Aché, les gens, les personnes. Chaque société primitive, en se nommant de cette façon, les gens, les personnes, les hommes véritables, etc., considèrent qu'elle détient le monopole de l'humain et par conséquent que les autres hommes, c'est-à-dire les tribus voisines, sont légèrement inférieurs ou même très nettement inférieurs. Les Guayaki s'attribuent à eux-mêmes une origine souterraine. Ils sont sortis de sous la surface de la terre. Dans le mythe, il s'assimile à des tapis, c'est-à-dire un animal creusé des galeries profondes dans la terre. Ils ont grimpé le long des parois verticales de leur terrier et, arrivés à la surface, ils perdent leur condition animale et ils conquièrent la condition humaine. Simplement, ils sont sales, ils puent, ce qui nécessite un passage par l'eau. Et sitôt sortis du trou et arrivés à la surface, ils se mettent en marche et très vite, ils rencontrent une rivière d'eau fraîche, c'est exactement ce que dit le mythe. Il faut rapprocher le mythe d'origine de la tribu Guayaki du rite qui préside à la naissance d'un enfant. Et le bain qui suit immédiatement la naissance d'un enfant, c'est exactement la répétition concrète et pratique dans la vie quotidienne d'une séquence du mythe d'origine, la séquence où les Aché, les Guayaki, émergeant de la terre, passent par l'eau. tout démarre en même temps. L'ordre social, c'est-à-dire les Guayaquis comme société, parce que dès lors qu'ils ne sont plus dans la terre, ils ne sont plus des animaux, ils sont des gens, donc ils fonctionnent comme société. Et qu'est-ce qui démarre en même temps? C'est le monde, le cosmos. Et mythe d'origine de l'obscurité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de succession du jour et de la nuit. Or, le monde ne peut pas vivre sans la succession normale du jour et de la nuit, et des saisons, et du mouvement du soleil. Alors, le mythe d'origine de l'obscurité, ils sont donc sortis de la terre, et peu de temps après, un homme s'en va à la chasse avec un de ses fils, et un fils qui n'est pas initié, c'est-à-dire qui n'a pas encore été reconnu comme adulte. Dans la forêt, il voit une énorme marmite en terre. Le père dit au garçon que surtout ne touche pas à cette marmite parce que c'est la marmite de Bayon. Bayon, c'est un personnage mythologique. Naturellement, le garçon, le fait qu'il soit un enfant est bien marqué par le fait qu'on dit qu'il n'est pas initié. C'est-à-dire, il n'a pas encore eu la lèvre inférieure percée. Naturellement, la première chose qu'il fait, c'est d'attraper un bâton, de frapper sur la marmite. Et alors, l'histoire du monde commence, parce qu'en fait, dans cette marmite, il y avait la nuit, il y avait l'obscurité. Alors, un moment originaire de jour éternel succède, par la faute du garçon, un moment qui pourrait être de nuit éternelle. Jour éternel, nuit éternelle. Alors, pour rétablir, non pas le retour au jour éternel, parce que les hommes n'en veulent pas, eux ils veulent, et du jour et de la nuit, il y a un rituel à faire, et c'est ce que fait, raconte le mythe, le père du gamin. Il le prend de la cire d'abeille, il la fait brûler, et la fumée de la cire d'abeille dissipe la nuit, et le jour réapparaît, et à partir de ce moment-là, il y a le jour et la nuit, et les saisons qui se succèdent, donc une vie humaine devient possible. Moi, je m'intéresse depuis longtemps, principalement, mais pas exclusivement, à toutes les questions qui touchent au pouvoir politique dans les sociétés primitives. Et ça s'appelle, dans le jargon des ethnologues, l'anthropologie politique. Je suis parti en janvier 63 au Paraguay, chez les Indiens Guayaquis. Avant même cela, j'étais intrigué et même fasciné par cette question du pouvoir politique, c'est-à-dire la question de la chefferie dans les sociétés primitives. D'une part, il y a des chefs, et d'autre part, ils n'ont aucun pouvoir. Alors la question, le mystère, c'était qu'est-ce que c'est que ces chefs qui sont sans pouvoir? Bon, là-dessus, je suis parti en Amérique du Sud, j'y ai passé en tout plusieurs années, dans des sociétés différentes. J'ai passé un an, disons janvier 63, décembre 63, chez les Indiens Guayaquis, au Paraguay. C'était une tribu de nomades, des chasseurs-collecteurs, des gens de forêt. En 65, j'ai passé 6 mois dans la même région, mais chez des gens très différents, qui sont les Indiens Guarani, qui, eux, se distinguent tout spécialement par la profondeur de leur métaphysique religieuse. En 66, j'ai passé 6 mois, toujours au Paraguay, mais dans la région qu'on appelle le Chaco, dans une tribu qui s'appelle les Chulupi, qui, alors, eux, présentaient comme marque spécialement d'être des guerriers. Avant la découverte de l'Amérique, la guerre se passait entre eux, et puis peu à peu, à partir du XVIIe siècle, les tribus de cette région, elles ont guerroyé principalement contre les Espagnols et contre les Portugais. Ces tribus ont mené le même genre de guerre que, par exemple, les Indiens d'Amérique du Nord, contre les Blancs, contre l'armée américaine. En 70-71,
J'ai passé 3 mois dans l'extrême sud du Venezuela, au cœur du système amazonien, chez les Indiens Yanomami, avec mon ami Jacques Lizot, qui est là-bas depuis plusieurs années, et qui connaît très très bien cette société. La différence étant que les Yanomami sont, on pourrait dire, presque dans une situation précolombienne. C'est-à-dire, ils sont nombreux, c'est certainement la plus grande société indienne libre d'Amérique. Ils occupent l'extrême sud du Venezuela et l'extrême nord donc du Brésil, où pratiquement ce qu'on appelle les Blancs n'ont pas encore pénétré. La plus grande partie des groupes Yanomami sont à peu près autonomes et indépendants par rapport à cette très légère frange du monde blanc qui est représentée par les missionnaires. Répartir l'ensemble de toutes les sociétés en deux macro-classes, en deux grandes classes, société sans État et société à État, eh bien c'est premièrement rester fidèle à une distinction proprement anthropologique et deuxièmement rester fidèle à la réalité. Il n'existe que deux sortes de sociétés, les sociétés primitives, c'est-à-dire les sociétés sans État, et toutes les autres. Toutes les autres, ça veut dire les sociétés où il y a la machine étatique. Naturellement, dans cette énorme classe, on peut mettre aussi bien les despotismes archaïques, comme je parle, les pharaons, ou les Incas, ou la monarchie française du XVIIe siècle, par exemple, aussi bien que les États modernes, que les États libéraux de l'Europe occidentale, ou les États dits socialistes comme l'URSS. Toutes les sociétés à État ont ceci de commun qui est l'État. Toutes les sociétés primitives ont ceci de commun entre elles, qui est qu'elles n'ont pas l'État. La pensée marxiste, en tout cas la pensée d'Engels, dans son travail sur l'origine de la famille, veut situer l'origine de l'État, c'est-à-dire la relation de domination, c'est-à-dire l'aliénation politique. Elle veut en découvrir l'origine dans l'aliénation économique, c'est-à-dire dans l'existence antérieure des classes sociales. Le schéma d'Engels, c'est celui-ci. Il y a au départ la société primitive, société non divisée, société, disons, égalitaire, sans riches, sans pauvres, puisque tout le monde a la même chose. Par une opération quelque peu mystérieuse, là je parle du livre d'Engels, cette société au départ non divisée, elle se divise progressivement, et à un moment donné, elle est complètement divisée, il y a des classes, il y a des riches et des pauvres, il y a des exploiteurs et des exploités, et à ce moment-là, la classe des riches, pour consolider son pouvoir sur les autres, invente quelque chose qui est la machine d'État. Il y a, chez Engels en tout cas, une conception instrumentale de l'État. L'État, c'est l'instrument de domination de la classe dominante sur les classes dominées. À partir de l'ethnologie, et à partir de la recherche et de la réflexion sur les sociétés primitives, c'est-à-dire sur les sociétés sans État, ce n'est pas les classes qui déterminent l'apparition de l'État, c'est à partir du moment où il y a aliénation politique, c'est-à-dire relation de commandement-obéissance, car la substance de l'État, finalement, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là
que ceux qui détiennent le pouvoir peuvent inventer le travail aliéné. Car il est bien évident qu'un pouvoir qui ne s'exerce pas, ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, il existe en tant qu'il s'exerce. Par conséquent, que vont faire ceux qui détiennent le pouvoir? Ils vont démontrer qu'ils détiennent le pouvoir. Et comment font-ils pour le démontrer? C'est l'obligation de payer le tribut. L'obligation de payer le tribut, ça signifie que les gens qui obéissent, ils vont consacrer une partie de leur temps, non plus à travailler pour eux, pour leur famille, comme dans la société primitive, mais une partie de leur temps à travailler pour le maître à qui ils doivent le tribut. La forme moderne du tribut, chez nous, je veux dire, étant entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, mais étant entre autres, l'obligation de payer l'impôt. Mais dans le cas des sociétés primitives, on a vu que le chef se trouve inscrit dans une relation de dette par rapport à la société. Dette de parole, dette de bien. Ça veut dire que dans les sociétés primitives, le pouvoir, il est évidemment pas du côté du chef, il est du côté de la société. Le pouvoir, il est totalement rabattu sur le corps entier de la société. On pourrait dire donc que la société primitive, en tant qu'elle détient le pouvoir, elle exerce le pouvoir sur le chef et voire contre le chef, par le biais précisément de cette relation de dette. Tandis que dans le cas des sociétés à État, là, il y a eu la rencontre entre le chef et le pouvoir, et c'est lui qui établit une relation de dette avec la société. Et c'est la société qui est endettée par rapport aux détenteurs du pouvoir. Dans la société primitive en général, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un développement de ce qu'on appelle les forces productives. Normalement, l'économie dans les sociétés primitives, ça reste à peu près inerte. Il n'y a pas de progrès, ou très peu. Alors, si lorsqu'on réfléchit à la question de l'origine de l'État, la voie de l'économique se trouve fermée, et c'est ce que je pense, si c'est une impasse, eh bien, il faut la chercher ailleurs. C'est dans le champ du politique que l'on doit enraciner la réflexion sur la question de l'État. La division de la société en classes sociales opposées, c'est une conséquence du politique, c'est-à-dire une conséquence de l'émergence de l'État. C'est l'État qui détermine l'apparition des classes, et non pas le contraire, comme le dit la théorie marxiste, sur laquelle je suis en total désaccord, puisque je pense rigoureusement le contraire.
La société contre l'État, l'arc et le panier.
Les sociétés primitives n'ont pas d'économie de la production, ni même, je dirais, ce ne sont même pas des économies du travail, au sens où le travail est aliéné. Eh bien, l'énergie libidinale, elle est libre, elle est disponible pour tout autre chose que le travail. Alors ça peut être la guerre, ça peut être la fête, ça peut être l'activité sexuelle. Elle est disponible pour un tas de choses. On est en train de parler des Yanomami. On pourrait dire rigoureusement la même chose des Guayaki, de n'importe quelle société primitive. En effet, la question de l'économie, en son sens le plus général, elle est décisive. C'est vrai que lorsque on n'a pas besoin de se consacrer 8 heures par jour et 365 jours par an à travailler, eh bien il y a une quantité fabuleuse d'énergie qui est libre. Ce qui frappe lorsqu'on est dans un village indien par exemple, c'est de voir le temps énorme que les gens passent allongés dans leur hamac, à ne rien faire, à rêvasser, à dormir.
À être.
Oui, à rêver. On disait avant, avec le vocabulaire raciste et colonialiste, travailler comme un nègre. Là-bas, on dit feignant comme un indien. C'est exact, les indiens n'aiment pas le travail. Mais ça tient évidemment au fait d'abord que le travail en lui-même n'est pas aimable, donc on ne peut pas tellement s'étonner de ce qu'ils ne l'aiment pas, bien entendu. Et deuxièmement, ils n'en ont pas besoin. Je veux dire qu'avec un minimum d'activité quotidienne, la subsistance de la société, de la communauté est assurée. C'est impensable qu'il y ait, disons, des parasites et qui vivent du travail des autres. Mais il ne faut pas hésiter à dire que c'est des sociétés sans travail. Il n'y a pas de travail non aliéné. On peut reprendre ce que dit Hegel à propos du travail. Le travail est aliéné. Alors, comment peut-on donc nommer ce que font les primitifs pour vivre? C'est-à-dire chasser, cueillir, pêcher. Mais pas seulement ça. En Amérique du Sud, par exemple, l'immense majorité des sociétés indiennes, des sauvages de forêt, des gens à plumes, des gens qui sont tenus, on imagine toujours que société primitive, monde sauvage, etc., ça veut dire chasseurs nomades, mais pas du tout. La plupart, c'était des agriculteurs sédentaires. Ils pratiquent l'agriculture sur brûlis, en brûlant un morceau de forêt. Ce sont généralement des cultivateurs de manioc, de maïs, de bananes, et puis de tabac, de coton, etc. Donc là, il y a une activité, mais cette activité, c'est pas du travail. La grande différence entre les sociétés primitives et les autres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour d'autres.
Comme esclaves salariés des autres.
Par exemple. Tandis que ça n'existe pas dans la société primitive.
Autrement dit, il n'y a pas de classe sociale.
Donc bien entendu, il n'y a pas de classe sociale.
Il n'y a pas de dominant et de dominé.
Il n'y a pas de dominant et de dominé.
Et c'est ça qui caractérise, d'après toi, les sociétés dites primitives.
Exactement, et là on peut s'en tenir tout simplement à une distinction qui est interne à l'ethnologie elle-même, c'est-à-dire les sociétés primitives, eh bien on les appelle les sociétés sans État. En effet, il n'y a pas de division du travail, sauf celle qui est, disons, naturelle, et qui est recoupée par les sexes ou l'âge. Si on prend le cas d'une société de chasseurs-collecteurs nomades, eh bien, ce n'est pas les femmes qui chassent, c'est les hommes. Et la collecte, c'est-à-dire ramasser les baies de certains arbres, ou les fruits, ou certaines racines sauvages comestibles, etc., c'est une fonction des femmes. C'est une division sexuelle du travail, une division naturelle. Ou, dans des sociétés d'agriculteurs, comme les Yanomami par exemple, une partie considérable du travail, disons, agricole, qui consiste à travailler sur les jardins, sur les plantations, généralement chez les Indiens de forêt, c'est-à-dire chez les sauvages, c'est du travail féminin. L'arc, c'est la chasse, c'est les hommes, c'est le gibier dont on vit, et le panier,
c'est le petit magasin qu'on porte tout le temps sur le dos, c'est le moyen de transport, c'est la femme elle-même. Car ces nomades-là, c'était des gens qui étaient constamment en marche dans la forêt. Ils restaient rarement plus de 3 jours ou 4 au même endroit. Donc, il faut transporter tous les biens de la famille. Eh bien, là on a un cas de division sexuelle du travail. L'homme y marche avec seulement son arc et ses flèches pour être prêt à toute éventualité, c'est-à-dire tuer un gibier s'il le voit. Et la femme, elle est derrière avec tous les biens de la famille dans son panier. Elle porte. La société primitive, en général, il n'y a pas de spécialiste. C'est-à-dire, il n'y a pas de division du travail. Pourquoi ? Tout simplement parce que, dans une société primitive, tout le monde sait tout faire. Et personne ne dépend de son voisin pour faire quelque chose. Par exemple, un homme n'a pas besoin de son voisin pour savoir faire un arc, ou des flèches, ou une sarbacane, ou une massue, enfin, selon ce que les hommes utilisent. Les garçons apprennent avec leur père à remplir les tâches masculines, par exemple fabriquer les armes. Et de la même manière, les petites filles apprennent avec leur mère à remplir les tâches féminines. Entre autres, fabriquer les paniers ou les hottes de portage. S'ils cultivent le coton, par exemple chez les Yanomami, il faut savoir le filer. Et disons, un jeune homme ou une jeune fille arrivant à l'âge adulte, eh bien pratiquement, il sait faire tout ce qu'il aura besoin de faire dans sa vie d'adulte et il ne dépend de personne pour rien. Et de la même manière, la communauté elle-même est complètement autosuffisante par rapport aux autres communautés. De la même manière qu'à l'intérieur de la communauté, il ne peut pas y avoir de hiérarchie fondée sur le savoir, sur la division du travail, de la même manière, il ne peut pas y avoir de hiérarchie entre les communautés, parce que chaque communauté est autosuffisante.
Voix singulière de la collection Terre humaine, une émission réalisée à partir des Archivina, aujourd'hui Pierre Clastre. À consulter le livre qu'a publié Pierre Clastre dans la collection Terre humaine, Chronique des Indiens Guayaki, ce que savent les Atchés, chasseurs nomades du Paraguay. Également, Archéologie de la violence, la guerre dans les sociétés primitives, Le Grand Parler, mythes et chants sacrés des Indiens Guarani ou encore La société contre l'État, recherche d'anthropologie politique. Renseignements sur notre site franceculture.com où vous pourrez également réécouter cette émission. À la documentation, Fanny Richer, Catherine Louis de l'INA, mixage Pierre Mine. Réalisation Marie-Ange Garandeau. Une émission de Marie-Hélène Freissé.
Bapi,